On va commencer cet après-midi avec Mathias Ropolo, qui est enseignant-chercheur ici avec l'archi, chercheur au GRESI et architecte. Son travail traverse à la fois le champ des humanités environnementales, je dirais, ou à la question de la vie aux régions, et vraiment au centre de son travail, la question des écologies sensibles. Et là, Mathias, on l'a déplacé un tout petit peu. La question du sens, c'est pas l'entrée que Mathias travaille nécessairement. Alors aujourd'hui, c'est une occasion de commencer à faire des passerelles entre tes approches, tes outils, tes vocabulaires et ceux du du sonore et du crescent. Voilà. Ouais, mais ça fait que deux ans, un an et demi.
Ça fait deux ans et demi, ouais, que je suis là. Ouais. Attends, vas-y. Merci beaucoup, Marc. Merci, c'était l'introduction nécessaire. En effet, je le redis moi-même, donc je suis un peu stressé, parce que le sonore, c'est pas mes sujets. Malgré tout, c'est une bonne occasion pour moi de m'y mettre et de faire ces ponts qui ont été évoqués entre ce que le sonore fait à mes travaux, ou plutôt là où mes travaux pourraient mener au sonore. Ça s'appelle Fabuler l'invisible, et Marc m'a invité, je lui ai fait des promesses qu'il ne faudrait jamais faire, et je lui ai dit, on va parler d'agentivité plus qu'humaine, des champs d'amour de plus de 20 000 Hz des rats urbains, de l'impossibilité totale de la gestion des écosystèmes, de l'importance de développer des arts de la fabulation plus qu'humaine pour faire monde, et encore d'imaginaires construits au sujet de la vie infraliminaire en réaction aux conséquences supraliminaires des macro-systèmes techniques qu'il faut habiter. Donc évidemment, on ne va pas parler de tout ça, c'était un peu ambitieux. Malgré tout, hein, vous allez voir que je vais parler de choses qui, d'une manière ou d'une autre, font écho à ce programme de travail. Dis-moi, Marc, combien de temps on prend ?
Alors, on n'a pas Léo, alors si on dit...
Si je parle 35 minutes.
35 à 40, c'est parfait.
D'accord, et ben ça fera peut-être ça, si tout va bien. Et sinon, vous faites signe, ouais. C'est en quatre chapitres, et je commence par discuter de ce qui s'appelle là les autres, où sont les autres. Et je dirai à qui j'emprunte cette question un peu plus tard. J'aurais dû être là ce matin, puisque je crois que Marc a parlé un peu de la thématique écho du vivant. Donc je vais moi aussi parler de cette thématique-là en introduction, mais sans savoir ce qui s'est dit, donc c'est un peu gênant malgré tout. Ça me semblait intéressant pour démarrer. En tout cas, moi, ça me met en mouvement, parce que le vivant, effectivement, c'est une notion qu'on voit apparaître de plus en plus souvent ces dernières années. Et en effet, la problématique d'élargir au-delà de l'humain, de l'anthropocentrisme, comment se manifeste le son du vivant, je ne peux que la désirer, la trouver désirable, et en même temps, ça me pose question, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de vivant ? Est-ce que finalement, le vivant, c'est une autre façon pour parler de biodiversité ? Et il y aurait des raisons à ça, parce que finalement, le concept de biodiversité, dans énormément de travaux tels que je peux les percevoir, moi, qui ne suis pas un spécialiste du sujet, j'ai le sentiment qu'il est en question, il est en débat, il est en crise, ce concept-là. Alors évidemment, outre le fait que la biodiversité est en plein effondrement, en pleine destruction, le concept lui-même pose un certain nombre de problèmes, tant et si bien que beaucoup de gens appellent à sa refondation parce qu'il serait trop flou, il voudrait dire des choses contradictoires, il serait réducteur pour les animaux eux-mêmes, bref, à plein d'égards, il serait instrumentalisable, bref, on pourrait faire la liste de toutes les manières dont ce mot de biodiversité renvoie à tout et n'importe quoi et est utilisé pour tout et n'importe quoi. Donc le vivant, de ce point de vue-là, pourquoi pas, quoi que ce soit un concept encore moins solide, sans doute scientifiquement, que la biodiversité. J'en veux pour preuve la nouvelle école dont vous avez peut-être entendu parler, mais c'est quelque chose de très confidentiel en France, me semble-t-il, les nouveaux matérialismes, école de philosophie anglophone, notamment portée par ce travail de Jane Bennett, Vibrant Matter, et dont je trouve par exemple le résumé qui est fait par Céline Grandjou là assez percutant. Le livre de Jane Bennett constitue une importante contribution à la pensée de la place des acteurs non humains dans la vie sociale et politique, dans la lignée d'autres travaux, battant en brèche les oppositions entre vie et matière, personne et objet, et l'association tenace entre matière et inertie passive, Jane Bennett cherche à cultiver l'intuition d'une vitalité de la matière. En gros, c'est des travaux qui remettent en cause les frontières entre l'organique et l'inorganique, en rappelant notamment, si j'ai bien compris, que même le minéral est comestible pour certaines bactéries. Si le minéral est comestible, ça veut dire que même un caillou, ça rentre dans... on peut repenser complètement en ce moment la frontière entre comestible et non comestible, voire entre l'organique et l'inorganique. Enfin, c'est tout le champ de ce qui est acteur, ce qui est vivant, qui est un peu transformé par cette écologie des choses, comme c'est appelé là, cette écologie politique des choses. Donc, c'est quelque chose que je connais que par porosité, mais qui me fascine assez. Je n'en connais pas assez pour, si ce n'est pour vous y renvoyer, et pour dire que ça, finalement, avoir cette question des échos du vivant, ça m'interroge sur ce que Jane Bennett dirait elle-même. Est-ce que dans les échos du vivant, elle aurait tendance à inclure aussi des matières, s'il est vrai que la frontière entre matière inerte et vie animée n'a plus de sens. Ça me renvoie à un autre travail, qui est celui de Florence Burga, qui est une philosophe spécialiste de l'animal que j'aime beaucoup, et où je me dis que peut-être en fabulant à nouveau ce qu'elle pourrait en dire, ou en fabulant avec elle ce qu'on pourrait dire du vivant, peut-être qu'on aurait envie de dire que le vivant, c'est aussi une manière d'inclure le végétal et l'animal dans le même concept. Mais Florence Burga insiste à juste titre, me semble-t-il, et c'est tout à fait opposé presque au travail précédent, hein, sur la frontière qu'on peut continuer à tenir entre animal et végétal, et l'importance... sous une pensée du vivant, de continuer à dire qu'une plante et un animal ne sont pas la même chose, au regard notamment d'un argument qui n'est pas uniquement celui de la sens-science. Vous avez peut-être entendu parler de ça chez les animalistes, il y a beaucoup ce concept des animaux sensibles qui souffrent, et de baser notre éthique sur la capacité à souffrir des êtres vivants et à sentir et être sentient. Pas uniquement là-dessus, mais selon elle, sur la vie individuée, c'est-à-dire une vie unique qui a une naissance et une mort. Chose qui, selon elle, et c'est vrai que ça s'entend, pourrait définir la vie animale, tout animal, humain inclus, rentre dans cette définition-là, alors qu'une plante, à bien des égards, pas tellement. Les plantes poussent, repoussent, et finalement, c'est le même patrimoine génétique qu'on peut aussi propager. Donc, d'une certaine façon, les plantes ne meurent jamais, alors elles peuvent bien sûr se croiser, se reproduire, s'hybrider, mais pas forcément. Enfin, donc, il y a là, en tout cas, une esquisse de poursuite de la distinction entre végétal et animal qui ne semble pas inintéressante, à voir ce que ça donnerait d'un point de vue sonore dans tout ça. En tout cas, c'est sur la base de ces travaux-là que moi-même j'ai mené quelques recherches sur l'animal et l'architecture, avec ce constat paradoxal que d'un côté on avait une absence spectaculaire, il y a déjà une absence qui saute aux yeux, et c'est pas évident, hein, c'est aussi un paradoxe en soi, dans la théorie de l'architecture, dans la pratique de l'architecture. Dans la pédagogie de l'architecture, on ne parle que très peu d'animaux non humains, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire pas tant de biodiversité, on parle un peu aujourd'hui de biodiversité en façade, sur l'imperméabilisation des sols, etc., mais d'animaux en tant que corps, des mammifères, des animaux dans toutes leurs catégories, domestiques, sauvages, liminaires, féraux, enfin, il y a tout un champ des animal studies qui est très absent de la pratique des milieux de l'architecture, et en parallèle, dans les faits, une omniprésence totale, il n'y a pas d'édifice construit qui n'accueille pas, de façon choisie ou subie, des animaux non humains en son sein, sur leur sein, autour d'eux, qui les ait mis en mouvement par leur construction. Enfin bref, en fait, dans les faits, l'animal est partout, mais dans nos théories pratiques et pédagogiques, il n'est nulle part. Donc ça, c'était la recherche qui m'animait. Et pour faire cette recherche, j'ai eu envie de mettre la photographie en mouvement. Et puis j'ai voulu faire des photos moi-même et pas juste compiler des photos de photographes. Et donc en racontant à un ami il n'y a pas très longtemps le fait que j'allais faire des enquêtes photographiques pour avancer là-dessus, cet ami qui est un peu un spécialiste des animaux aussi m'a dit un truc très juste, il m'a dit « tu vas galérer ». Mais il avait raison, en fait des animaux il n'y en a nulle part. Quand on veut faire des enquêtes photographiques sur des animaux, on va où? Si ce n'est on va au zoo, on va à l'aquarium, on va dans une animalerie. On va éventuellement chez un vétérinaire, on va dans un abattoir, on va dans une ferme. Alors il y a des lieux comme ça, effectivement, avec tout l'anthropocentrisme de chaque lieu, effectivement, qui est en question. Et sinon, en ville, bah oui, il y a des pigeons. Si on est très rapide et bon photographe, il y a des rats et des moineaux, des corbeaux. Et c'est à peu près tout. Ou sinon, effectivement, des chiens. Donc, je me suis retrouvé à faire une photo sur les chiens en vitrine dans les magasins. Parce que finalement, c'était le sujet le plus omniprésent. Je reviens à cette question du vivant. Finalement, c'est le seul vivant non humain qui était à ma disposition en tant que photographe amateur pour commencer à mener une enquête sur les rapports de ce vivant non humain avec les espaces qu'ils habitent, bien qu'il n'ait pas été conçu pour eux. D'où cette question que j'emprunte au dernier appel de la revue Projet de paysage, où sont les autres ? Et je trouve cette question assez marquante avec cette photo au-dessus dans l'appel, où on voit effectivement des images comme on peut en produire nous-mêmes pas mal en école d'architecture, avec du paysage, avec sans doute du projet, avec une volonté peut-être écologique. On voit des éoliennes, on voit quelqu'un qui est tourné vers le paysage, on voit des terres non imperméables, mais les autres, le vivant en question, à part quelques plantes, où est-il ? De quels autres parle-t-on vraiment ? Alors je continue ma petite introduction, mais je vais arriver vers le sonore, hein, promis, un peu après. Vous savez, ces chiffres-là, malgré tout, je les redonne parce que pour moi, ils sont terrifiants à la mesure de la manière dont la société ne s'en préoccupe pas. Autant on entend tous les jours ou presque parler de climat et de carbone, autant l'effondrement de la biodiversité, c'est rarement un sujet pris au sérieux. Selon le WWF, entre 1970, au moment où ils ont commencé leurs études, qu'ils appellent Rapport Planète Vivante, et 2020, donc en 50 ans, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies a diminué de 73%. Donc, en fait, des animaux, tant qu'il en reste encore, et jusqu'à quand ? Enfin, je pense que ce chiffre, moi, il m'évoque ça. On peut continuer avec les taux d'extinction et les indices liste rouge, etc., qui ne sont que des indicateurs qui vont tous dans le même sens. Alors, les animaux, c'est pas vrai, évidemment. On en voit dans les villes, et le vivant, il est là, mais la plupart du temps, il est présenté comme ça. Quand les rats se promenaient en plein Chambéry, rien que cette phrase, vous vous rendez compte, en plein Chambéry, ils osent se promener en plein Chambéry. Et surtout, dans le champ lexical qui est un peu partout, il y a des questions. Les rats envahissent les villes, ils seraient en train de devenir un fléau, ils prolifèrent, et on lit même là, en tout petit, des rats avaient semé la panique sur les terrasses en bois du boulevard. On serait bien peu de choses à être si terrifiés par quelques rats en ville, dont on sait pourtant scientifiquement qu'ils ne transmettent plus la peste, puisque ce n'était pas cette espèce de rat qui transmettait la peste au Moyen-Âge. Mais les imaginaires et finalement la fabulation autour des rats se poursuit. Quel genre d'espèce le rat pourrait-il accueillir ? Espèce invisible mais qui serait présente, tel un Covid porté par des rats. Ces petits animaux qui se baladent, porteraient-ils ? Moi, j'ai l'impression que c'est des petits véhicules à mythologie, quoi. C'est des petits véhicules ambiants en ville qu'on voit passer et qui arrivent à agripper autour d'eux une quantité de fabulations vraies et fausses, absolument incroyables. D'où la force du récit, parce que voilà, à nouveau, là, c'est un récit construit sur un animal largement inoffensif, tellement populaire que des hommes politiques arrivent à faire campagne là-dessus et se faire élire et réélire là-dessus. Le champion de toute catégorie, c'est Geoffrey Boulard, maire du 17e arrondissement, qui avait fait des photos comme ça en hygiéniste avec des gants blancs en train d'éradiquer les rats lui-même, quoi, pour montrer qu'il était vraiment au service de la population face à ce fléau, et qui a monté un site internet qui s'appelle Signaler un rat. Vous pouvez signaler en ligne, j'ai vu un rat ici, c'est de la délation plus qu'humaine. Et où il se présente lui-même, voilà, pour dire « N'oubliez pas, c'est moi qui ai monté ce site. » Tout ça en dit long, et je trouve de l'autre côté du pendant, puisqu'on parle de vivant, ça c'est quand même une façon dont la société parle, pense et se fabule à elle-même son rapport au vivant, finalement. Est-ce qu'on est vraiment prêt, en fait, à l'animal sauvage ? À quel animal sauvage ? Qui est prêt à quoi ? Vu ça, et en parallèle, je me permets, hein, parce qu'il est suffisamment connu et reconnu pour qu'on puisse lui envoyer une petite crotte de nez amicale, Baptiste Morisot, qui nous envoie un champ lexical beaucoup plus romantique de l'aventurier qui va explorer une nature vierge et sauvage dans laquelle, si on prend rien que les titres des livres, on peut refaire des phrases magnifiques, on va pister les créatures fabuleuses et raviver les braises du vivant dans une esthétique de la rencontre qui nous permet de nous enforester sur la piste animale pour réouvrir de nouvelles manières d'être vivant. Enfin, On sent ici un romantisme et finalement un dualisme nature-culture qui va, je trouve, complètement à l'encontre de ce que lui écrit, qui évidemment nous invite à ne plus l'être, mais en fait, je trouve, le reconduit très fort. On devrait aller dans une nature sauvage avec cette posture un peu viriliste ou néo-guerrière, je ne sais pas trop. On croirait un militaire avec un équipement tout neuf acheté au magasin qui nous fait voir à quel point ce serait ça, pister le vivant, quoi. Ce serait ça, aller chercher l'écho du vivant. Alors moi, je suis curieux de voir dans votre semaine si vous allez être plutôt d'un côté ou de l'autre de la balance et quel vivant vraiment vous allez pister comment. Et puis, quel modèle à suivre. En fait, moi, ce qui me pose question pour finir la parenthèse sur Morisot, c'est quel modèle reproductible. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que maintenant, on aille tous pister des loups? On est 60 millions. Est-ce qu'on doit tous, 60 millions, aller pister des loups? Ou est-ce qu'il s'agit de l'observer, lui, en train de pister des loups, et se dire, mais c'est fabuleux, il piste des loups, on va pas le faire, mais lui, il le fait bien. Enfin, je trouve que la question du modèle reproductible, elle permet de porter un regard critique sur ce qu'on se dit et ce qu'on se raconte, qui est pas inintéressante. Alors, peut-être de façon tout autant critiquable, moi-même, j'ai pisté des biorégionalistes, et c'est sûrement tout, pas moins ridicule. J'ai pisté des théoriciens, des praticiens, des inventeurs de ce mouvement qui date des années 70 aux États-Unis pour essayer de les comprendre, un peu comme un animal fabuleux lui aussi, que je n'ai jamais toujours complètement compris, et puis qui doit se réinventer. La différence, c'est qu'on peut se l'approprier plus simplement, parce qu'on peut se dire nous-mêmes aujourd'hui en quoi je voudrais que soit le biorégionalisme en France aujourd'hui, par-delà ce qu'il a été. Alors juste en un mot, pour dire que ce n'est pas un courant architectural du tout au départ, j'ai écrit des travaux là-dessus, si ça vous intéresse, pour dire en quoi ça n'en était pas un, qu'est-ce que ça pourrait être notamment si on l'appliquait à l'architecture, ou en quoi certains travaux et pratiques contemporaines de l'architecture, à l'évidence, ne sont pas biorégionalistes, si on regarde bien. Pour ne pas rentrer très longtemps là-dedans, mais en deux mots, présenter le courant, parce que je vais, c'est ça qui m'a fait m'amener vers le sonore. Dire que le... C'était un joli son, ça. Et je vais en parler de ce qu'on entend juste après, on va y arriver dans une dizaine de pages. Réhabiter signifie apprendre à vivre in situ au sein d'une aire qui a été précédemment perturbée et endommagée par l'exploitation. Ça signifie devenir originaire d'un lieu, devenir conscient des relations écologiques particulières qui opèrent au sein de ce milieu autour de lui. Je pense que ça, c'est une des meilleures définitions de ce qu'a été le biorégionalisme. C'est un courant qui a invité les gens à se réancrer quelque part, à penser, à parler, à agir là où ils sont, le mieux possible ensemble. Ça ne veut pas dire s'isoler, se replier sur soi, mais ça veut dire déjà commencer par se demander ce qu'on y connaît à notre propre vie, avant d'essayer de sauver le monde. Et peut-être que c'est en reposant cette question qu'on peut arriver à une écologie qui est populaire, qui est partagée, qui est autonome, qui donc, quelque part, est écologique, puisque peut-on faire l'écologie sans les gens, ou à la place des gens? Comment l'écologie peut être autre chose que populaire et partagée et quotidienne, en fait? C'est ça aussi la question que ça pose. Et donc, si elle est populaire, partagée, quotidienne, elle est sensible, elle est vécue, elle se transmet en autonomie. Et donc, si elle se transmet, ça veut dire qu'il y a des lieux où elle se transmet, il y a des temps où elle se transmet, donc ça pose la question de la pédagogie, comment on apprend quelque chose du bassin versant dans lequel on se trouve, comment on transmet ce qu'on sait au sujet du prendre soin de telle espèce, du devenir de telle autre espèce, des évolutions climatiques en cours et de ce qu'on pourrait en faire, enfin bref. Ces transmissions horizontales, elles se sont expérimentées et théorisées à la fois, ils ont essayé des choses et ils en ont raconté d'autres, aussi via des méthodes de fabulation, c'est-à-dire qu'ils se sont envoyés des colis avec des chansons, avec des poèmes, avec des cartes, avec des photos, avec des dessins sur ce que pourraient être les lieux, sur des savoirs amérindiens oubliés dont on pourrait se réinspirer. Enfin bref, il y avait toute une tentative de réinvention cosmologique, et pas juste d'une écologie rationnelle, quantitative, combien de CO2 on produit, et qui passait aussi par des randonnées. Peter Berg, qui est la personne que vous voyez là en train de parler, raconte ça notamment dans un article qui est disponible en ligne sur le site de la Planet Drum Foundation, si ça vous intéresse, en version originale ou en version française que j'ai traduit il y a 5 ans, qui s'appelle « Apprendre à se lier à un lieu de vie » et qui est disponible aussi en libre accès en ligne sur HAL. et où il raconte à la fois par le biais d'une expérience de randonnée comme ça qu'il faisait dans des milieux périurbains, comment il essayait de donner une autre lecture du paysage aux gens avec qui il randonnait, et ce qui l'amène à inventer une forme d'école du soir en disant, mais de toute façon les gens ils ont leur vie, ils peuvent pas tout arrêter pour apprendre des choses biorégionalistes, donc il va falloir s'insérer dans les trous, au moins dans un temps de transition. Donc on pourrait monter une école du soir, et donc il fait un programme en quatre semestres, je crois. École du soir biorégionaliste avec des expérimentations pratiques, etc. Donc vous le voyez, j'ai pas tellement parlé de biorégion. De plus en plus, je m'éloigne de ce concept-là, et je vous invite même à vous en méfier si vous le recroisez. Je trouve ce graphique assez bien fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose là du bord, mais c'est dans un livre de théorie biorégionaliste, quelqu'un qui a essayé de dire d'où à où ça va, en termes d'échelle et de domaine, et qui assume finalement que ça va du social à l'économique, au biologique et au physique, en termes de domaine, et en termes d'échelle, la biorégion, en gros, ça va d'une grosse ville à juste en dessous de la biosphère. Donc c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout ce que vous voulez y mettre, plutôt pour les besoins de vos activités écologiques. Le biorégionalisme, il n'a pas que cet outil de biorégion, il a plein d'autres outils, et notamment, il y avait un des outils qui a été développé, qui était celui de la cartographie. Et donc, pendant des décennies, il y a eu des gens qui ont fait des ateliers de cartographie participative. Ça, c'est quelques exemples, et il y en a plein d'autres, dans lesquels, justement, l'idée, et on pourrait tout à fait, par exemple, si on avait une heure ou deux, en faire un ici, il suffit juste d'avoir des feuilles et des crayons. L'idée, c'est d'essayer de se réapproprier les manières de se représenter notre chez-nous, en assumant que, avec les gens qui ont porté ça, que en fait, notre capacité à nous représenter notre chez-nous a été volée par les gens qui font des cartes, les satellites, le numérique, etc., et que finalement, on est plus habitué à consulter des représentations de notre territoire habité qu'à en produire, à tel point qu'on a oublié qu'on pouvait en produire. Parce qu'évidemment, on se dit, mais moi, je peux rien faire face à un satellite, Google Maps est déjà là, enfin, pourquoi ? On se pose même plus la question, en fait. Pourquoi ça aurait du sens ? Eux défendent l'idée que c'est une pratique qui a toujours eu lieu, la représentation du chez-soi, et qu'on ne peut pas parler d'un territoire habité de façon écologique si on n'en a pas de représentation, et donc si on n'a pas les capacités à travailler ces représentations ensemble. Représentations qui, du coup, de façon désanthropocentrée, ne font plus apparaître l'humain au centre de la représentation, mais font apparaître une myriade d'espèces, par-delà les services écosystémiques qu'elles peuvent rendre ou non, par-delà la compréhension qu'on a de ces espèces ou non, par-delà peut-être même le fait que ces espèces existent ou non, parce que peut-être au sein de la carte, il y a des espèces totems, il y a des espèces... il y a des dragons, il y a des dahus, il y a des espèces qui n'existent pas, qui sont des espèces fabulées, mais qui font partie du monde qu'on habite localement. Tout ça ne dessinant plus, du coup, un territoire effectivement normé, efficace, rationnel, mais notre chez-nous, c'est-à-dire le territoire habité, notre intérieur habité, notre biorégion intérieure, quelque part. C'est ça la quête, je trouve, qu'essayent de représenter ces cartographies. Donc certaines ont quand même des bases un petit peu satellitaires, on pourrait dire aujourd'hui, enfin géographiques. Et d'autres, pas du tout. Ce sont plutôt des diagrammes, des mondes, quoi. Alors, moi-même, j'ai essayé de faire des ateliers comme ça l'an dernier. J'en ai fait deux, des ateliers participatifs, avec une méthode que j'ai inventée qui va paraître, si tout va bien, ces semaines-ci dans la revue Topophile, qui a fait, du coup, cette grande illustration-là. Et ça a donné des choses assez chouettes. Malgré tout, soyons francs, ce qu'on voit apparaître dans les résultats, ce n'est pas une déconstruction magique et immédiate en deux heures de nos cosmologies rationnelles, occidentales, anthropocentrées, tout ce que vous voulez. Et on continue à représenter, et peut-être d'ailleurs la méthode que j'ai inventée n'aide pas assez à sortir de ça, hein, peut-être qu'elle mérite d'être révisée. Toujours est-il que non seulement on représente encore un peu un monde... Oui, rationnel et quantitatif, avec des flux, avec des routes, avec des ponts, avec des maisons. Enfin, finalement, c'est encore souvent un peu anthropocentré et la fabulation, elle s'arrête à ça, ce qui en dit long aussi sur la nécessité, je pense, de faire éclater nos capacités à fabuler pour décentrer en fait hein, nos capacités à se raconter des récits depuis autre chose que nos propres vies dans une optique écologique. Et puis aussi, elle s'arrête à ce qui est visible et à ce qui est perçu, c'est-à-dire à ce que les gens connaissent. Ils savent que y a plein de mouettes autour de chez eux, donc ils vont représenter une grande mouette au-dessus. C'est très joli, c'est très vrai. Malgré tout, c'est des mouettes perçues. Il y a rarement de choses justement qui vont de l'ordre de l'invisible. Elle ne fabule pas beaucoup l'invisible. Pour commencer à transiter vers le titre de ce que je vous raconte et vers ce qu'on entend depuis tout à l'heure, qui, selon une artiste qui s'appelle Yana Vinderen, je ne sais pas qui la connaît, moi je la... Ben, voilà, je la connais peut-être mieux que moi, parce que je la connais finalement assez peu, mais c'est une artiste sonore et qui a fait cet enregistrement-là sous le titre les gars les plus bruyants de la planète. Visiblement, ce qu'on entend, c'est le cri de cet animal, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est une crevette, hein, qui serait dans le rapport entre taille et émission sonore, l'animal le plus bruyant du monde en proportion. Et donc c'est un enregistrement sous-marin de ces animaux. Tout ça pour dire que ça, c'est peut-être quelque chose qui commence à nous décentrer. Parce que, à l'évidence, on ne voit pas quel est le service écosystémique ça va nous rendre. On ne l'avait pas perçu dans nos vies ordinaires et ça n'a pas de rentabilité a priori. Enfin bref, on est dans l'ordre de l'étrange, j'ai l'impression, dans le bon sens du terme, de l'altérité en fait. Quelque chose qui nous est autre. Il me semble qu'une des définitions de l'altérité, c'est ce qui se résout jamais, quoi. On n'arrive jamais à l'altérité, sinon c'est plus de l'altérité. Là, pour moi, on touche du doigt l'altérité. Quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais, et qu'on ne peut malgré tout toucher du doigt que parce que ce sonore-là, il a été outillé. Via des captations qui nous rendent perceptible un truc qui était imperceptible. Alors, tous ceux qui travaillent sur le son savent ça depuis longtemps, hein. Moi, c'est là que je vois ce que le sonore fait à mes travaux, c'est une évidence pour vous. Malgré tout, c'est avec ça que je vais poursuivre là dans mon propos. Je dis depuis quelques mois seulement, un truc qui m'est apparu il y a quelques mois seulement, c'est que le sensible... Je suis assez convaincu de ça aujourd'hui, c'est une condition nécessaire mais non suffisante de l'écologie. C'est difficile de s'engager dans l'écologie sans avoir une part sensible, mais c'est difficile de croire, ou c'est dangereux de croire, que juste le sensible pourrait nous amener à une quelconque écologie, à une quelconque posture écologiste. Vous pouvez aller en montagne toutes les semaines en 4x4 faire des compétitions de VTT ou de ski, vous êtes dans le sensible et la pratique des paysages et des lieux naturels, mais à aucun moment ça peut vous amener, ou ça va vous amener automatiquement, vers de l'écologie. Donc nécessaire mais non suffisant, et à la conclusion à laquelle j'arrive avec ce propos aujourd'hui, j'arrive à une deuxième limite finalement de l'écologie du sensible, c'est que le sensible nu a des limites non négligeables qu'on aurait tort de sous-estimer. C'est ce que je commence à essayer de raconter là avec ce sensible nu, on pourrait dire, et ce sensible outillé qui nous amène un peu ailleurs. Et finalement, se dire que le sensible outillé permet d'aller plus loin et permet de nous aider à considérer pleinement l'invisible, aujourd'hui me semble intéressant. Juste pour l'anecdote, j'ai mis en illustration à côté une photo d'une gare au Japon. C'est une gare belvédère, donc on peut sortir du train juste pour observer le paysage et re-rentrer dans le train. Cette gare ne dessert rien du tout, si ce n'est elle-même et le paysage qui est autour. Et je l'ai trouvé en écho avec ses limites du sensible, d'une manière ou d'une autre. Just because you can't hear it doesn't mean it isn't there. Hein, c'est pas parce que vous l'entendez pas que c'est pas là. C'est ça que je crois nous raconte Yana Vinderen, et auquel j'arrive laborieusement avec mes histoires de limites biorégionalistes, et aussi en tant qu'enseignant en atelier de projet à l'école d'architecture, parce que finalement nous on se raconte souvent qu'on est dans l'immersion, dans le paysage, dans le contexte, qu'on va prendre en compte via le sensible. Des contextes, des atmosphères, des ambiances dans lesquelles, ça c'est le début de l'atelier de projet par exemple de licence 2 qu'on fait tous les ans, on va sur le site et toute la journée on essaie de s'imprégner des quelques vivants qui sont là, les deux chevaux, les trois moutons, les quelques chants d'oiseaux qu'on entend mais qu'on voit pas, et pas grand chose d'autre finalement, un chat qui passe éventuellement le long de la route, mais on le fait pas outiller, on le fait pas beaucoup avec le sonore, donc je me le dis à moi-même aussi, finalement, cette Winter School, elle m'invite à me dire, tiens, ben, ça a lieu là dans 3 semaines, par exemple, on va le refaire. Est-ce qu'on n'irait pas avec des micros, comment on les appelle, à coque, là, qui permettent de pointer pour...
Des paraboles,
les micro-paraboles, peut-être ça nous aiderait à se dire qu'en fait, dans le paysage qui est là autour de nous, il y a tout un monde qui nous échappe, et à ne pas l'oublier, parce que finalement, sinon, on finit par se dire, en tant qu'architecte et étudiant en architecture, étudiante, bah, quels sont les éléments auxquels je m'accroche? Et si je ne les perçois pas, c'est qu'il n'y a pas d'éléments. Comme si tout ce qui n'était pas perceptible n'existait plus, et finalement, finit par disparaître des rendus, quand bien même ils essaient de prendre en compte la bioclimatique, les milieux, les sols, les usages, etc., bah, y a plus de vivant, il n'y a pas de sonore, est-ce qu'on ne reste pas encore un peu anthropocentré? Donc, Jana Vinderen, c'est une artiste norvégienne qui a démarré visiblement dans les mathématiques, la chimie et l'écologie maritime, et qui est finalement devenue une artiste sonore, qui a fait quelques enregistrements dont celui qu'on entend un peu en fond depuis tout à l'heure, et aussi des projets de recherche en collaboration, et ça je pense que ça intéressera mes collègues du Cresson, que j'ai découvert ça là en préparant cette intervention pour aujourd'hui, avec les âmes notamment à Caen. Ça c'était un projet qui s'appelait Nature et Renaturation, aperçu sensible d'une histoire des cours d'eau en mutation, et donc il s'agissait dans l'enquête d'essayer de voir si le sonore pouvait nous aider à documenter les transformations le long de la renaturation d'un cours d'eau, comment on mesure l'avant et après, et est-ce que le sonore permet de mesurer ces transformations écosystémiques qui, du coup, passent littéralement par des choses qu'on ne peut pas percevoir nues, quoi. Et donc, comment mesurer cette renaturation? Donc, elle en a tiré un autre enregistrement qu'on peut se mettre, si vous voulez, pour la fin de l'intervention en fond sonore, mais vous allez voir que c'est pas moins... Voilà. Ambiantale. Et je vous parle surtout de ce troisième, enfin surtout je vous parle aussi de cette troisième intervention qui m'a semblé assez intéressante et d'où je tire les captures d'écran là, des rats depuis tout à l'heure. Hélas, je n'ai pas trouvé d'enregistrement audio de cette performance-là, mais qui me semble assez stimulante. C'est donc les fameux chants d'amour des rats de plus que 20 000 Hz, si j'ai bien compris. L'hypothèse qui est faite, c'est que les rats se font les surmulots, en fait, en vérité, c'est des surmulots, l'espèce, se font la sérénade en chantant, en criant, et comme ils font ça avec des sons de plus de 20 000 Hz, on ne l'entendrait pas à l'oreille humaine, donc elle a enregistré ces sons-là, et elle les a ralentis pour qu'on puisse les entendre, et elle les a projetés dans ce lieu dans lequel, sans doute, les rats font ça, donc il y a toute une part de fabulation et d'hypothèse, mais à nouveau, c'est une performance sonore qui permet de rendre à nouveau perceptible une vie plus qu'humaine qui sinon nous échappe complètement. Oui, les rats aussi peuvent peut-être avoir des histoires d'amour, être romantiques, se courir après, bref. Chose qu'on finit un peu par oublier et qui peut-être donne du sens à ce tas dessous d'autoroute, je sais pas ce que c'est. C'était en 2017. Il y a... Ça, c'est mes pubs ciblées. Oui. Je viens pas du sonore, mais pour le coup, je fais de la musique et je suis entouré de musiciens, ce qui est aussi perturbant pour moi, parce que la musique ne mène pas forcément au sonore. Et le sonore ne mène pas forcément à la musique. Mais ce sera pour une autre intervention. Je termine rapidement avec mon dernier chapitre et on arrivera à 35 minutes sur le fait qu'on avait écrit le titre de mon intervention fait aussi écho à un petit article que j'avais écrit avec une philosophe qui s'appelle Julie Beauté, paru il y a quelques années, qui s'appelait Fabuler l'invisible, et dans lequel on faisait finalement la présentation de 4 démarches différentes: médiatiser les plantes avec la démarche de Teresa Castro, l'atlas féral de Dan Hatzing avec les cartes et les mouvements entre ces espèces, d'où le côté féral, les sons donc de Jana Vinderen, et c'est de là que j'avais découvert cet artiste, et puis la manière dont Val Plumwood remet en avant la nécessité de raconter des histoires et aussi de raconter des histoires qui existent déjà, c'est-à-dire qu'en lien, je ne vais pas être long là-dessus, mais en lien avec d'autres anthropologues australiennes comme Deborah Bird Rose, Valplumwood défend, si je ne trahis pas sa pensée, l'idée qu'il est important de fabuler des histoires, mais qu'il y a déjà un bon nombre d'histoires ancrées par des peuples autochtones, notamment sur des lieux qui existent, et des histoires qui ont du sens, des histoires qui font écho à des mondes qui ont existé, des mondes culturels, qui résonnent avec des mondes naturels, enfin bref, qu'il faut aussi apprendre à pas toujours tout réinventer, mais à savoir réécouter les histoires qui existent, en fait, dans une perspective décoloniale et écoféministe, mais je vous renvoie à leurs travaux. Bref, nous, on s'était dit que tout ça, ça favorisait quelque chose comme un parti pris de l'invisible, vers une écologie de la non-disponibilité. Je vais juste introduire rapidement ces concepts-là avant de finir. Et peut-être c'est plus clair en démarrant par cette citation-là de l'ancien inspecteur général à l'agriculture Bernard Chevassus Olouis, qui disait en 2013, comme le disait l'évolutionniste américain Stephen Jay Gould, on croit voir le chien, on n'en voit que la queue. C'est-à-dire une petite partie qui n'est pas du tout informative de ce qu'est l'ensemble. De même que pour un arbre, la partie la plus importante et la plus abondante est ce qu'il y a dans le sous-sol. De même qu'un champignon qui pousse dans une forêt n'est que l'expression très transitoire de tout un réseau mycélien qui peut faire des centaines de tonnes, ce que l'on voit n'est qu'une partie très partielle et biaisée du vivant. C'est une idée fondamentale qu'il faut s'approprier. Dans les années 70, on pensait avoir réalisé 70 voire 80% de l'inventaire du vivant, alors qu'aujourd'hui on en est à 10% tout au plus. On va ainsi devoir gérer quelque chose qui restera en grande partie méconnu et peu ou pas visible. J'aurais peut-être pu ou dû démarrer mon intervention tout à l'heure par cette citation-là qui fait la problématique qui m'anime. Comment est-ce qu'on peut dealer avec un vivant dont on ne voit qu'une partie très partielle et biaisée? Comment on peut gérer des écosystèmes qui nous échappent en grande partie et qui, plus le temps passe, plus visiblement nous échappent? Et donc, comment on peut, dans tout ça, échapper finalement à un paradigme qui entend justement gérer les choses, puisqu'on voit que c'est impossible? D'où le parti pris de l'invisible, assumer que l'invisible, l'imperceptible, l'ingérable, en fait, c'est positif, c'est justement ce qui va échapper à la maîtrise humaine. Je crois que si on veut sortir de l'anthropocentrisme, il faut faire l'éloge de ce qui nous échappe et le laisser justement dans cette non-disponibilité. Il n'est pas disponible pour nous, et c'est bien comme ça, d'où l'écologie de la non-disponibilité et des fabulations, d'où voilà, c'est la fabulation de l'invisible, ce qu'on voulait mettre derrière tout ça, que j'essaie de représenter aujourd'hui avec d'autres récits, c'est cet éloge-là d'un invisible qui nous échappe. Alors il y a plein de conversations... justement sur le site The Conversation, si ça vous intéresse, sur pourquoi est-ce qu'on connaît que 20% du vivant, pourquoi on ne sait pas dire combien il y a d'espèces sur la planète et qui sont à mettre en lien avec les chiffres que je donnais au début. L'effondrement du vivant, ça ne veut pas dire que le vivant n'est pas en train de s'effondrer ou plutôt qu'on est en train de le détruire massivement. Hein. Ça veut juste dire que le WWF, pour pouvoir dire il y a moins 73% d'animaux, ils ont pris des populations précises, d'animaux ciblés qui ne sont qu'à des endroits précis et ils regardent ces animaux-là. Et ils en extrapolent un chiffre, tout comme quand on a un institut de sondage de l'IFOP qui dit 73% des Français, ils ont pris un panel de 1000 personnes. C'est un peu la même chose, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Ça veut dire aussi que, bon, une fois de plus, on doit s'éloigner des visions ingénieriques et planificatrices. Mais là, je nous le dis à nous-mêmes, discipline de l'architecture, qui entendons... transformer, gérer les choses avec la meilleure responsabilité possible. En fait, je crois qu'il faut... C'est pas qu'il faut déresponsabiliser, hein. Loin de moi l'idée de dire ça. Il faut pas du tout déresponsabiliser l'architecte, mais je crois qu'on les responsabiliserait mieux, ils se responsabiliseraient mieux si on pouvait dire plus précisément et plus clairement les limites de leur responsabilité et les points sur lesquels on s'attend et les critères d'évaluation de la réussite ou non de cette responsabilité. Et faire ça sérieusement. Et si on attend une responsabilité écologique de la part des architectes, des urbanistes, des paysagistes, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'écologie, quand on dit ça? Aujourd'hui, on est dans une écologie qui est quantitative, qui se mesure en kilowattheure, qui se mesure donc en épaisseur d'isolant sur la façade, je résume un peu, mais, et rien d'autre, si ce n'est maintenant un peu des cycles de vie de produits et de matières, mais c'est... nouveau, incomplet, et ça nous amène encore pas du tout sur ces champs-là, alors qu'évidemment, que je crois qu'il y a un lien. Je finis avec une citation de Hans Jonas, qui déjà, dans le principe responsabilité à la fin des années 80, annonçait l'obsolescence des principes d'immédiateté, de visibilité et de portée limitée de l'agir humain. C'est-à-dire, il disait, mais en fait, on ne peut plus continuer à parler d'éthique comme on en parlait il y a 2000 ans, en disant, ne fais pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Enfin, vous voyez, ces principes-là qui font qu'on peut mesurer les conséquences de son acte. Aujourd'hui, quand on prend notre voiture, on ne mesure pas les conséquences de cet acte. On ne sait pas dire à quel point on a fait du bien, du mal, c'est grave, c'est pas grave. En fait, on est dans un flou éthique qui est lié à cette impossibilité de mesurer. Parce que les conséquences de nos actes ne sont plus immédiates, ne sont plus visibles, ne sont plus de portée limitée. Et donc, c'est toutes les bases de l'éthique et de la morale humaine qu'il faut repenser. Le principe responsabilité, donc, il était fondé là-dessus et il termine. Enfin, je termine en le citant parce qu'il y a ces deux petites phrases que j'aime bien, qui sont très en lien, je trouve. Il écrivait donc dans ce livre « Un appel muet qu'on préserve son intégrité semble émaner de la plénitude du monde de la vie, là où elle est menacée. Nous devrions rester ouverts à l'idée que les sciences de la nature ne livrent pas toute la vérité au sujet de la nature. » Et j'espère avoir à peu près tenu mon programme. Je vous remercie.
Merci.